Religion du monde. Geneviève Delru.
Bienvenue dans Religion du monde. Avec notre invité Mohamed Chirani, cette première partie est consacrée à l'islam de France et plus largement aux défis posés aux responsables musulmans et aux hommes et femmes de bonne volonté, j'allais dire, pour faire sortir l'islam de l'impasse. Mohamed Chirani, bonjour.
Bonjour.
Alors, après Réconciliation française, notre défi du vivre ensemble chez François Bourin, c'était en 2014, vous récidivez avec Islam de France, la République en échec, et c'est publié chez Fayard. On reparlera d'ailleurs du titre. Je rappelle que vous êtes consultant en prévention de la radicalisation religieuse, que vous avez été délégué du préfet pour les quartiers sensibles de Seine-Saint-Denis de 2009 à 2013. Alors, votre itinéraire personnel, vous êtes né en France ?
Exactement, à Bourg-en-Bresse.
À Bourg-en-Bresse. Votre père est ouvrier à la SNCF, c'est ça ?
Des chemins de fer d'une entreprise... qui travaille pour la SNCF et qui mettait les rails sur les voies ferrées. Et en fait, on vivait dans un wagon et mon père suivait les chantiers au fur et à mesure qu'ils avançaient. Donc c'était un wagon maison en fait.
Vous êtes presque né dans un wagon.
Exactement. En fait, j'ai passé 9 ans de mon enfance à sillonner la France avec mon père d'une ville à une autre. Mes 4 frères et sœurs sont nés dans les 4 coins de la France en fait.
Et il y avait d'ailleurs un wagon mosquée.
Il y avait un wagon salle de prière.
Oui.
Donc en fait, j'en parle pour faire la comparaison avec l'islam des caves. Les mosquées des caves, donc là c'était pas une cave, c'était un wagon où c'est le premier lieu de prière dans lequel je suis rentré avec mon père parce qu'il me ramenait avec lui et il y avait des tapis et c'était organisé pour les ouvriers des chemins de fer.
Alors après vous repartez en Algérie où vous allez passer votre adolescence.
Oui, exactement.
Et c'est là où vous allez de scout et c'est une branche du scoutisme qui dépend
exactement.
Des frères musulmans.
Ouais, donc en fait c'est une branche du scoutisme qui dépend des frères musulmans. En Algérie, on est en 86, 87, 88, début de démocratie en Algérie, montée de l'islamisme politique, et je vis toute cette période de ce qu'on appelle, ce qu'ils appelaient à l'époque, as-sahwa, l'éveil, c'est-à-dire le retour à l'islam. Et en fait, j'assiste dès ce jeune âge aux prises de tête entre et aux joutes entre salafis, frères musulmans, le Front islamique du salut qui était le parti radical.
Oui.
Donc en fait, les frères musulmans étaient considérés comme les modérés parce qu'à Paris après ils participeront au gouvernement en matière de lutte contre le terrorisme aussi et donc je vis toute cette période et le début du terrorisme et de la guerre civile, donc c'est une période qui m'a marqué et en 96 à l'âge de 19 ans je reviens en France.
Et là quand vous revenez en France vous êtes encore sous l'emprise, peut-être que le mot est un peu fort, mais enfin très influencé.
Oui, je suis encore conservateur, rigoriste, je suis encore dans cette pensée là même si j'ai pris un petit peu mes distance et il faudra le temps de l'éducation, le temps de reprendre des études, le temps de connaître
distance.
De la distance, connaître d'autres personnes, d'autres vues pour prendre en fait mes distances définitivement avec ce qu'on appelle l'islam politique.
En tous les cas, l'expérience, j'allais dire des années de plomb en Algérie vous a guéri définitivement de l'islam politique hein, manifestement et aujourd'hui ce que vous prenez c'est un discours de déconstruction, un contre-discours et pour ça, j'allais dire que vous avez tout à fait les outils. Hein. Et pour vous, effectivement, ce ne sont pas les armes qui l'emporteront. Hein. Ce n'est pas la chute de Mossoul ou de Raqqa qui l'emportera, mais c'est le combat idéologique qui mettra fin au djihadisme.
Exactement, c'est ce que j'utilise. Je dis en fait, le combat, il est d'abord idéologique. C'est une guerre des mots, kalimat en arabe. Et pourquoi ? Parce que Daesh a su s'immiscer dans nos failles et en fait avec des vidéos, des idées, etc. Elle a pu embrigader une partie de nos jeunes contre leur propre pays. Et il s'agit d'un combat aujourd'hui mondial et il ne suffira pas de détruire Mossoul. C'est pour ça que je dis les mots sont plus puissants que les rafales. C'est une bataille idéologique qu'il faudra mener, qui sera de longue haleine. Ça va pas se faire en 2 ans ou en 3 ans. Et c'est pour ça que j'essaie d'alerter en fait le prochain président de la République et l'opinion publique sur la nécessité de mener ce combat parce que Daesh nous a lancé un défi d'ordre idéologique et il faut le relever.
Alors, on retrouve tout cela dans votre livre, dont le champ dépasse largement le titre. Le titre, je le rappelle, donc « Islam de France, la République en échec », un titre réducteur, à mon sens, réducteur à plusieurs égards, parce que d'abord, il est quand même, c'est un peu fort, c'est pessimiste. En échec, bon, il y a quand même maintenant près de 2500 mosquées en France, c'était pas le cas il y a 20 ans, donc il y a quand même des choses qui ont été faites. Le CFCM, le Conseil français du culte musulman, donc créé par Nicolas Sarkozy en 2002, existe toujours, même si on dit que c'est une coquille vide, même si l'on dit que ses représentants ne sont pas représentatifs, mais enfin bon, ça existe. La Fondation de l'Islam de France, notamment avec Jean-Pierre Sauvénement, alors vous allez me dire que Dalil Boubaker, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, a claqué la porte tout récemment, mais là encore, ça existe.
Oui, oui, je ne cache pas dans mon livre qu'il y a eu des avancées notables ces dernières années. Ce que je voulais signaler, c'est l'échec de la République, c'est que pendant 30 ans, en fait, l'islam, la gestion de l'islam de France a été déléguée au pays d'origine, a été déléguée à l'Algérie, au Maroc, à la Turquie. Ce que je veux dire par
l'islam consulaire,
c'est ce qu'on appelle l'islam consulaire. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il a fallu des attentats énormes, un séisme, des attentats de Charlie contre Charlie Hebdo, l'hypercacher, et après ceux de novembre, après ceux de juillet, pour qu'on commence là, à s'activer, Cazeneuve qui commence à mettre en place l'instance de dialogue avec l'islam, réanimer la fondation des œuvres pour l'islam, que je rappelle, elle a été mise en place en 2005, mais qui n'a jamais fonctionné, à cause de cette tension, rivalité entre les organisations, les fédérations consulaires.
Donc en fait, plus que la fin, quand on entend le mot république, on pense aux autorités politiques, mais là, en fait, c'est les musulmans eux-mêmes.
En fait, c'est une responsabilité collective, parce que en fait, il y a les ministres, des ministres de l'Intérieur qui sont allés parler d'islam de France à Rabat, à Alger et à Ankara. C'est un fait aussi. Et en fait, c'est vrai que j'aurais dû appeler mon livre « Islam de France, l'échec de la République et des musulmans ».
Parce que c'est
une responsabilité collective, mais comme vous le verrez dans la quatrième de couverture, elle rééquilibre le titre.
C'est vrai, tout à fait. Même tout le titre est rééquilibré tout au long du livre. Mais je voulais quand même le dire.
Oui,
hein.
Oui, mais je comprends. Mais c'est-à-dire que, en fait, je ne suis pas seulement en train de. Ce que je veux dire aussi, c'est envoyer un message fort. C'est que on a cru que l'islam de France allait se réformer tout seul, avec ses propres énergies, ses propres ressources, et avec les fédérations et les organisations existantes. Et ce que je veux dire, c'est que il ne pourra pas se réformer tout seul. On aura besoin d'une intervention très forte de l'État. Une sorte de gallicanisme, réactiver un gallicanisme, parce que aujourd'hui on fait face à une menace qui nous dépasse complètement.
Et c'est pour ça. Il faut travailler ensemble, quoi, c'est tout.
Oui, exactement. Parce qu'aujourd'hui on fait face à une idéologie qui est l'idéologie salafiste, djihadiste, violente, terroriste. Et l'autre volet, qui est pacifiste, entre guillemets, pacifiste, ça veut dire non-violent, qui est le salafisme tout court, mais derrière, il y a un État, avec 22% de réserves pétrolières dans le monde. Et toute la propagande qu'il a mis en place pour diffuser cette idéologie. Même si le salafisme, il n'est pas violent, piétiste,
majoritairement, parce qu'il y a quand même une partie qui peut l'être devenu.
Il porte en lui les germes, de la radicalisation, de la violence et du non-vivre ensemble. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, il y a cette bataille idéologique qui est mondiale, qui est régionale. Et les musulmans de France, avec leurs maigres moyens, ne peuvent pas faire face tout seul à ce défi-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, le discours qu'on entend de certains politiques, c'est les musulmans doivent faire face. Oui, on aimerait bien faire face, mais comment? On peut pas. Ça veut dire, on a affaire à une puissance pétrolière avec des moyens de propagande énormes, avec aussi des organisations, des fédérations qui tiennent l'islam de France, qui, eux, sont liés à des pays d'origine et dont la préoccupation première n'est pas la jeunesse. Et c'est une idéologie qui est portée par des jeunes avec un discours contestataire, de rupture. Donc voilà le défi qu'on a aujourd'hui.
Oui, effectivement. Alors, on s'étendra pas trop sur la radicalisation des jeunes. On en connaît le phénomène, c'est-à-dire des jeunes qui se sentent marginalisés. Il y a un vide, j'allais dire, existentiel, un vide identitaire, un avenir qu'ils ne voient pas et ils se radicalisent petit à petit. Aussi des problèmes psychologiques pour certains. Bon, je crois que ce phénomène-là, on le connaît, vous le suivez de près. On va plutôt aller de l'avant. J'allais dire, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Et dans votre livre, il y a des propositions et puis il y a des constats avant. Alors, le constat, on taxe souvent les mosquées. Mais en fait, quand on lit votre livre, on se rend compte que ça n'est pas le problème. Qu'en réalité, les jeunes, c'est sur Internet qu'ils vont, que l'imam, il n'a pas beaucoup de pouvoir, il a très peu de pouvoir.
En fait, ce que j'explique, je dis dans mon chapitre que l'imam est en première ligne. Ça veut dire l'imam est censé répondre à la demande des jeunes. Mais parce qu'ils ne sont pas en capacité de répondre à cette demande des jeunes, que les jeunes se rabattent sur Internet. Je vais, par exemple, faire la prière du vendredi dans les mosquées chaque semaine. Et je vois des fois des jeunes qui s'ennuient. Parce que l'imam est en train de parler en arabe, ou quand il commence à traduire en français, les jeunes n'accrochent pas.
C'est vieillot aussi,
c'est
comme
vieillot.
Discours.
Ouais, c'est décalé.
Par exemple, donnez un exemple.
C'est-à-dire, ils sont en train de faire des discours qui ne parlent pas aux jeunes de sa réalité, de son vécu, de son questionnement psychologique, identitaire, spirituel, dans le contexte dans lequel il vit en France.
Ouais.
Et dans ce cas-là, le jeune va chercher l'information ou sur Internet. C'est pour ça que, en fait, il faut agir sur le mosquée, parce que je parle d'une transition, de passer à des imams qui sont plus en phase avec les préoccupations des jeunes et une capacité à s'adresser à eux avec un message clair, mais aussi sur Internet, parce que les statistiques que, notamment j'utilise beaucoup les statistiques de l'IFOP qui ont été utilisées par l'Institut Montaigne pour la dernière étude « Un islam français est possible », qu'est-ce qu'il démontre? Que la majorité des jeunes, 73%, cherchent leur réponse sur Internet, alors que 41% des musulmans cherchent leur réponse chez un imam. Que 95% des contenus sur Internet sont salafistes.
Donc, le discours qu'ils reçoivent.
Le discours le plus rigoriste. Mais surtout, que 40% des jeunes croient que le halal, ça veut dire manger de la viande halal, est un pilier de l'islam.
Oui, un des cinq piliers de l'islam, oui.
Alors que c'est pas un des cinq piliers de l'islam. C'est-à-dire qu'il y a un analphabétisme religieux. Ils vont sur Internet, et là, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'ils tombent sur la version la plus rigoriste. Et parce que aussi, d'une certaine manière, certaines mosquées ont laissé un vide. Et c'est pour ça que le combat, il doit se faire sur Internet, mais aussi sur la formation des imams et sur l'indispensable mise en place d'un discours qui soit en phase avec la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'islam des Chibani qui s'adresse aux Chibani. L'islam des vieux qui s'adresse aux vieux.
Les blédards, quoi, vous voulez dire, c'est
oui,
ça?
Oui, en partie, oui. C'est les anciens qui parlent aux anciens, alors qu'on a besoin de parler à nos nouvelles générations. Et quand on voit la crise de radicalisation qu'on a, ou les problèmes du vivre ensemble, elles sont liées. La majorité, c'est la jeunesse.
Oui, d'ailleurs, un jour, un aumônier musulman de prison me disait, oui, le problème, c'est que souvent les aumôniers dans les prisons sont trop âgés et ils ne tiennent pas le discours qu'il faudrait tenir aux jeunes prisonniers.
Oui, en fait, on n'est pas en phase. C'est que le discours radical de rupture, il est porté par des jeunes. Le discours d'apaisement, il est porté par l'ancienne génération qui n'a pas grandi en France, qui n'a pas la même préoccupation de la jeunesse française. Et c'est pour ça que parmi les grandes réformes à laquelle j'appelle, c'est une transition intergénérationnelle. C'est passer de cet islam des anciens à l'islam de la nouvelle génération. Pourquoi? Et c'est pour ça que dans mon introduction, je cite Gramsci.
Oui.
Quand le vieux monde tarde à mourir et le nouveau monde tarde à naître, les monstres apparaissent.
Ouais.
Et on est en pleine crise. C'est exactement le moment dans lequel nous sommes. C'est ce moment-là où un monde ancien tarde à mourir, un monde nouveau tarde à naître, et là, les monstres sont apparus.
Religion du monde. Geneviève Delru. Thank you.
Mohamed Chirani, la question de l'identité, évidemment, est très présente aussi dans votre livre. Elle va être très présente dans la campagne présidentielle, j'allais dire, qui s'ouvre. Alors, l'identité, vous l'abordez de façon, en fait, très frontale. Et la question que je vais vous poser, est-ce qu'on peut aborder la question de l'identité de façon sereine? Allez, l'identité heureuse dont parlait Anna Juppé. Parce que lorsque vous évoquez la question de l'identité, tout de suite, vous la liez, hein, dans votre chapitre, au nouveau réactionnaire. Alors, est-ce que l'on peut aborder cette question de façon, sereine?
C'est très difficile, c'est une question tellement passionnelle et en fait on se retrouve en France, le système de pensée est binaire, c'est noir ou blanc.
Mais donc, vous entrez un peu là-dedans vous aussi, hein?
Pas vraiment, parce qu'en fait je suis ni un islamo-gauchiste, comme
oui,
on dit,
oui,
ni un réactionnaire. C'est-à-dire, je fais le travail d'introspection, d'examen de conscience au niveau de ce qui ne marche pas au sein de l'islam de France ou chez une partie des musulmans. Je dis pas que c'est rose, je dis qu'il y a énormément de failles, de problèmes. Mais après, nier complètement, dire que, par exemple, quand on a quelqu'un qui écrit un livre qui dit que l'islamophobie, ça n'existe pas du tout.
Bien sûr que l'islamophobie existe.
Ou que les actes anti-musulmans, on essaye de diminuer. En fait, je n'essaye pas. Après, je ne dis pas que c'est le fond. Je dis que, en fait, les identitaires de tous bords ont besoin de l'autre pour monter en puissance. Et ça nous affaiblit, nous, qui sommes au milieu, au centre, qui essayons d'apporter un discours modéré. C'est-à-dire, je ne peux pas, d'un côté, commencer à critiquer tous les islamo-gauchistes, tous les radicaux, les intégristes, sans dire un mot sur l'islamophobie montante et les nouveaux réactionnaires, parce que sinon mon propos il serait biaisé.
Est-ce que par exemple avoir peur, avoir peur de l'islam, je dirais pour des Français qui connaissent mal, hein, cette religion, avoir peur de l'islam parce que il y a eu des attentats, même si, évidemment, les musulmans ne peuvent pas être comptables de ces attentats, d'accord.
Oui.
Hein. Mais avoir peur, même l'affaire du burkini, on pourra en reparler, parce que c'est quand même symbolique. Est-ce que ça, c'est de l'islamophobie?
Non, mais je l'explique dans mon livre. À un moment, dans mon livre, je le dis clairement, je dis c'est pas que quelqu'un est contre le foulard qu'il est islamophobe.
Voilà.
Ça veut dire, on peut estimer qu'il se sent touché dans sa culture, dans sa façon de vivre. Et d'ailleurs, quand vous voyez ma position sur le voile, typiquement, sur le voile, j'envoie dos à dos les ultra laïcars qui disent pas de voile ni dans l'université ni dans l'espace public, et ceux qui disent que le voile est une obligation religieuse.
Alors ce n'est pas vrai, alors que c'est faux quand on lit effectivement.
C'est-à-dire, je dis d'un côté que la laïcité n'oblige pas à enlever son voile et que l'islam n'oblige pas à mettre le voile. Mais le problème c'est que...
C'est dur d'être au centre. Hein.
C'est dur d'être au centre, ça veut dire en fait, on se fait pas entendre, ça veut dire dès qu'on dit, quelque chose, on braque les autres. Ça veut dire le fait de dire que aujourd'hui je vais me retrouver pris en tenaille entre des réactionnaires qui trouvent que, entre guillemets, je fais la promotion de l'islamisme ou je sais pas quoi, et d'autre côté, d'islamo-gauchistes ou des radicaux qui considèrent que je suis un traître, que j'ai un apostat ou
un coufard.
Donc en fait, c'est ça, c'est que... Et ce que j'essaye de dire, c'est que j'explique à un moment que quand j'appelle à la discrétion et à la modération des musulmans, je dis dans un contexte où et je soutiens par exemple les propos de Chevènement quand il a appelé à la discrétion
et qui s'est fait largement critiquer là-dessus,
et je le défends, je prends sa défense et j'explique voilà ce que le Coran dit par rapport à la modération et la discrétion. Ce que je dis est clair, je dis nous sommes dans un contexte où il y a des personnes qui se sont fait exploser en disant Allahu Akbar, on a vengé le prophète. C'est un contexte particulier où il y a des gens, dans leur imaginaire, il y a un continuum entre islam, islamisme et terrorisme. Donc il faut faire attention. Je le dis aussi. Mais le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans une crispation identitaire telle que dès qu'on prend, on essaye d'être au milieu, on est pris en tenaille entre les deux. Et on devient peu audible.
Oui, mais c'est d'ailleurs d'une façon générale. Oui. Aujourd'hui, c'est un peu la façon de penser. C'est un monde, on est dans un monde très binaire sur le plan de la pensée.
Exactement.
C'est aussi la maladie un peu contemporaine. Mohamed Chirani, on n'a pas fini. Hein. On a encore quelques minutes à disserter sur votre livre Islam de France, la République en échec chez Fayard. On se retrouve après le flash. Restez à l'écoute de RFI.